que ça n'est pas inutile. L'espoir c'est plus fort que la mort. La fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie. C'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Thank you. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Troisième lundi du mois sur Radio Libertaire, la voix sans unimètre de la Fédération anarchiste, sans unimètre et sans publicité. C'est la société dans tous ses états. Mohamed au micro. Et aujourd'hui, Hélène à la technique qui remplace notre ami Lulu qui est parti en vacances. Hélène, qu'on remercie pour s'être très gentiment proposée pour animer avec moi et faire la technique de l'émission. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean Rochard et Pierre Ten. Bonjour Jean, bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler de jazz et du livre que Jean Rochard et Pierre Ten ont publié et ont co-signé il y a 3 mois, à peu près. C'est paru il y a deux.
Ouais, à peine. Ouais,
voilà,
ouais.
Fin avril.
Le jazz en 101 citations aux éditions I. Alors, on va vous présenter un petit peu. Jean, tu te présentes?
Je me présente.
Oui.
Bon, moi, je me présente. Moi, je suis producteur de disques, comme on dit, depuis 1900. Enfin, j'ai créé une maison de disques en 1980, qui s'appelle les disques NATO, NATO, en minuscule. Et
ce sont des disques plutôt de jazz.
Ouais, ça doit être ça, plutôt de jazz, mais pas que de jazz, ouais. Et pas seulement le jazz, où le jazz c'est comme une espèce de enfin, où c'est plutôt un grand puzzle dans lequel il y a beaucoup de pièces qui sont de jazz, quoi.
D'accord. On va revenir, on a une heure et demie pour parler de ça. Pierre, je t'avais déjà accueilli à notre antenne, mais c'était pas du tout pour parler de musique.
On en avait parlé un peu, mais ouais. Je suis prof. Ouais. J'étais venu là pour ça en septembre et en plus j'écris et je parle de musique, notamment de jazz. C'est le puzzle principal.
Voilà.
Dont différents médias, dont Radio Libertaire.
Très bien. Le jazz en 101 citations. Alors c'est une entrée. En matière assez étonnante. Pour qui ne connaîtrait pas le jazz, je pense que ça serait une bonne... ou qui voudrait en connaître un peu plus, ou qui voudrait découvrir certaines facettes, plusieurs facettes de cette musique, ou de ces musiques qu'on regroupe sur le thème générique de jazz. Ce jazz, en fait une citation, est à mon avis une bonne introduction, et en même temps, pour ceux qui... déjà s'y intéresse depuis quelque temps, ce qui est modestement mon cas, une forme de visite ou de revisite d'une histoire culturelle, politique qui a marqué et qui marque encore une grande partie des gens qui s'intéressent à ces musiques. C'est un livre qui apporte énormément, et sous un volume finalement assez réduit, puisque ça comporte moins de 90 pages. On brasse vraiment une très grande variété de thèmes, jazz et cinéma, jazz et politique, jazz et révolution, jazz et féminisme. On va revenir là-dessus, mais première question, comment c'est venu cette idée de faire un bouquin sur le jazz en 101 citations? Pas 102, pas 103, pas 90, 101.
90, c'est le prochain volume. Non, non, c'est une sorte de commande un peu. Jean Estec est l'éditeur donc des éditions I. Qui est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps dans le monde de la bande dessinée, et m'a dit: tiens, ça te dirait pas de faire un livre sur le jazz en 101 citations, parce qu'on a une série là-dessus, le yoga une citation, les carottes râpées en 101 citations, bon, des tas de trucs. Et puis, dans un premier temps, je trouvais ça un peu... j'étais pas très très emballé en fait par cette idée. Puis finalement, je me suis dit, ça peut être une bonne idée, parce que c'est si on n'est pas dans quelque chose de si justement on utilise ces 101 citations non pas pour fermer l'affaire en disant bon voilà, l'affaire est réglée en 101 citations, hop, on sait ce que c'est que le jazz. Non, là, de faire le contraire. Et je me suis dit, ça serait bien de le faire avec Pierre. qui a été tout de suite d'accord, autant que je me souvienne.
Je t'en souviens bien.
Et parce qu'il avait une autre vision des choses que moi, etc. Donc, j'ai proposé, donc, après, j'ai rappelé l'éditeur en lui disant que je souhaitais faire ça avec Pierre Ten, et voilà.
Je vais en prendre une comme ça, en ouvrant page 13, la citation numéro 12. « Tu n'as qu'à improviser quelque chose, je lui dis, ça serait bien. » Et Django, absolument seul, improvisa d'emblée une petite pièce musicale impromptue qu'il arrêta lorsqu'on lui ait fait signe que les 3 minutes fatidiques du disque allaient s'achever. Or, lorsqu'on écoute aujourd'hui cet enregistrement, on a peine à croire qu'un tel chef-d'œuvre, délicat et violent à la fois, grouillant de trouvailles mélodiques, harmoniquement surprenant de richesse, mais d'une homogénéité parfaite, ait pu être ainsi totalement improvisé. Et pourtant, c'est ainsi que ce disque fut fait. C'est Charles Delaunay que vous citez. Charles Delaunay, un critique et un producteur de jazz, et c'est dans un livre qu'il a publié chez Eric Lustfeld qui s'appelait « Django, mon frère ». Il y a comme ça des citations qui viennent de personnes directement impliquées dans le jazz. Charles Delaunay, ça a été quand même quelqu'un d'assez important, je crois, dans l'histoire du jazz en France.
Extrêmement important, ouais. Oui. Je pense que sans lui, les choses auraient tout à fait une autre allure aujourd'hui,
ouais.
Oui.
Ouais. On peut quand même le situer un petit peu. Ça se passe avant et après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, ça se passe... Charles Delaunay, c'est le fils de Sonia et Robert Delaunay. Ouais. Hein, donc, c'est toi qui avais choisi cette citation, Pierre.
Oui, il est proche, dans un premier temps, de Panassier.
Ouais.
Donc, c'est toute cette histoire du Haut Club de France, de Jazzot, jusqu'à ce que ça explose totalement autour du bop, avec la guerre du bop, où Charles Delaunay défend une position un peu moderniste, en tant que là, à la fois producteur, critique et ami des musiciens. Lui, il défend avec une certaine ferveur le bop, pendant que Panassier reste sur une ligne un peu plus conservatrice, on va dire.
Beaucoup plus.
Ouais. Et ouais, on l'évoque un peu, ça a suscité pas mal de discussions entre nous,
ouais.
Pour trouver le bon ton, parce que...
Oui.
Parce que Panassier, c'est une figure assez complexe, où il y a clairement des discours racistes de sa part, dans un truc qui était fréquent, en même temps de valorisation des Noirs et du jazz en tant que musique un peu assujettie à cette identité noire. Avec des choses qui, bon, il y a le passage du temps, mais pas que. C'est assez complexe, sachant que Delaunay lui-même, il va peu après l'arrivée du bop être lui-même un peu poussé dans ses retranchements. Voilà, donc c'est un personnage.
Et c'est marrant parce que une fois j'étais avec Pierre à Beaubourg. À l'exposition sur le surréalisme. Non, pas
sur la bande dessinée.
Non, sur la bande dessinée, mais oui, il y avait des toiles de Robert Delaunay, Robert et Sonia Delaunay, et Pierre m'a dit, sans ces toiles, peut-être que toute cette histoire du jazz en France aurait été modifiée. Quoi.
Ouais, parce qu'il utilisait aussi beaucoup cet héritage-là pour nourrir le jazz de l'époque. Donc, ouais.
On ne se rend pas compte aujourd'hui avec la distance, mais de ces querelles qui pouvaient être très vives. Hein, donc, vous parliez de ces
tenants. Extrêmement vives, oui. Mmh.
Ah ouais, excuse-moi, mais t'en parlais juste avant qu'on rentre dans le studio de Gérard Terronès, qui a passé beaucoup de temps ici. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2015. Je l'avais interviewé. Et j'étais un peu complètement inconscient, je crois, à l'époque de tout ce que ça pouvait représenter, tout ça. Mais ça m'avait marqué, parce que lui, il racontait ce qu'il appelait la guerre du free, avec une vivacité encore très forte, 50 ans après, où on sentait, pas de la rancœur, quoi, mais que c'était quelque chose qui l'avait beaucoup marqué, qui avait des meurtrissures. Et il évoquait une forme de violence quand même dans les rapports de ce petit monde autour des questions de free jazz à l'époque. Enfin, ça m'avait beaucoup marqué parce que moi j'ai jamais connu ça, j'ai jamais été pris dans cette musique-là avec cette approche-là.
Mm-hmm. Oui, alors c'est marrant que tu dises ça parce que bon, les meurtrissures, oui, mais on vivait aussi beaucoup de cette chose-là. Mm. C'est-à-dire ces affrontements-là, ils étaient quand même très très nourrissants. Moi, je suis arrivé, disons que un petit peu à la fin de la bagarre, on peut dire. Mais c'était quand même assez plaisant d'en être quand à certains moments, quoi. Mm. Il y a beaucoup de. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pas mal changé, ça. Tout s'est régulé, sans doute. Mais c'est vrai qu'il y avait... Alors, évidemment, à cette époque-là, c'est des questions de vie ou de mort, de défendre Lester Young ou Charlie Parker, etc. C'est des trucs qui étaient extrêmement durs. Mais c'est aussi parce que cette musique, elle amenait quelque chose de très puissant, de très fort, de très vivant aussi, par rapport... Elle racontait quelque chose du monde... Cette citation de Charlie Parker où il dit je pouvais enfin vivre parce qu'il avait trouvé une manière de jouer de la musique, c'est quelque chose de qu'on a du mal peut-être à mesurer aujourd'hui. Enfin, je sais.
On va lancer un morceau, s'il te plaît, Hélène. Puisque c'est une émission dédiée au jazz et à la musique, on va écouter du jazz. Radio Libertaire, la voix sur l'UNIMED, la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean Rochard et Pierre Ten pour le Jazz en Soi, une citation édition I. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Jean ?
On vient d'entendre un disque de Luis Moolo Moolo qui s'appelle Spirits Rejoice, avec Evan Parker, Nick Evans, Radu Malfatti, Harry Miller, Keith Tippett. Luis Moolo Moolo, c'était un batteur, je dis c'était parce qu'il est mort il y a quelques jours, sud-africain, qu'on a vu arriver donc, en Angleterre avec les Blue Notes, qui était le groupe de Chris McGregor à cause de l'apartheid. Et en Angleterre, c'est tous ces musiciens sud-africains, donc il y avait lui, Johnny Dayani, Chris McGregor, Mongezi Feza, qui est l'auteur du thème qu'on a entendu là, mais qui est mort très jeune. On recrée leur musique sud-africaine, donc avec des musiciens sud-africains et aussi des musiciens anglais ou européens, mais beaucoup de musiciens anglais. Et la chose assez curieuse, c'est que ces musiciens anglais étaient les musiciens qui représentaient la free music, donc la nouvelle musique improvisée. Et ces musiciens sud-africains sont aussi allés jouer cette nouvelle musique improvisée par ailleurs. Donc il s'est créé quelque chose d'assez extraordinaire à ce moment-là.
C'était vers quelle époque date ce disque ?
Ce disque date des années 70, je ne sais plus exactement, ouais. 76 peut-être, ou quelque chose comme ça. Et toute cette histoire, elle a commencé dans les années 60. Fin des années 60.
On aborde là un aspect très important dans cette histoire du jazz et puis que vous développez, enfin, sur lequel vous revenez à travers les citations que vous citez, de ce lien entre le jazz et politique. Comment, par quel bout on peut le prendre, ce lien
Par tous les bouts.
Ouais, ce serait pas mal. Bah, c'est marrant parce que par moi, il y a un bout qui me vient là. C'est Jean qui avait amené ça. C'est par exemple la question des brigands, qui pour moi est assez éminemment politique. C'est évoqué dans le livre, c'est-à-dire le fait que les bandits, quoi, aux États-Unis, ils ont énormément soutenu cette musique.
La mafia, oui, la mafia juive et la mafia italienne.
Oui, ouais. Les gangsters. Ouais.
C'était au moment de la prohibition.
Oui, ça a duré assez longtemps.
Ça a duré, ouais. Et ça, c'est assez intéressant. Donc ça, on en parle au début, puis à la fin, il y a une citation donc de Daniel Richard, qui est un disquaire et qui a travaillé pour Universal, qui a produit des disques.
Des polygrammes avant.
La citation qu'on a prise de lui, c'est il dit on a remplacé les coups fourrés par les subventions. Donc lui, là, il pense plutôt aux années 80 et à ce qui s'en est suivi. Mais finalement, ça montre aussi, voilà, je trouve ça un bout intéressant pour poser les choses, c'est-à-dire cette musique-là, elle a existé dans un rapport à la légalité assez particulier, on va dire, et ça a produit beaucoup de choses. Et depuis qu'elle est entièrement légale et subventionnée, les choses ont bien changé. Ouais.
Dans le entièrement, on peut pas mettre tout.
Non, voilà, c'est notre entièreté.
À un moment donné, j'ai corné puis décorné la page, mais un musicien qui se retrouve sans permis de travail.
Kenny Drew.
Ça, c'est les musiciens pour pouvoir jouer à New York. Ils devaient avoir une carte qui les y autorisait. Et il y a beaucoup de musiciens qui se sont vus sucrer leur carte à un moment dans leur carrière. Il y a Monk qui est un exemple assez connu. Alors à un moment, ils pouvaient aller en France pour jouer, en France ou en Europe, ou dans d'autres villes des États-Unis. Et c'était un moyen de contrôle évident de la part de la police, de la ville, de l'organisation des concerts. Et ça permettait aussi d'avoir un contrôle sur les carrières des musiciens. Et c'était souvent, faut le noter, vécu comme aussi avec une dimension assez raciale, assez forte. Enfin, c'est ce qu'on dit plusieurs musiciens. Je parle un peu sous contrôle, l'agent. Mais Ouais, il fallait avoir l'autorisation de jouer à New York.
Et donc Kenny Drew se retrouve sans permis de travail et finalement c'est grâce à la mafia qu'il va récupérer
son... C'est Buddy Rich.
Ouais.
Il appelle Buddy Rich et Buddy Rich dit attends, je vais te régler le truc.
Buddy Rich, c'est un batteur.
C'est un batteur, pardon. Oui, oui, qui avait un grand orchestre. Quelqu'un d'assez assez peu sympathique quand même. Hein. mais en tout cas, il connaissait bien les flics et la mafia. Et donc, il règle le problème en moins de deux. Et il appelle un des pontes de la mafia qui appelle le chef de la police et l'affaire est réglée tout de suite. L'autre, il a sa carte dans la soirée, ce qui est beaucoup plus court qu'un dossier de subvention déposé au ministère de la Culture, faut bien dire.
Une autre citation, celle-ci, elle est assez courte, mais assez lapidaire. Le jazz est la fausse liquidation de l'art. Au lieu de se réaliser, l'utopie disparaît de l'image. Théodore Adorno, dans Mode intemporel.
Voilà. Alors on peut citer derrière la citation de Hobsbawm, je crois,
oui,
qu'il vient juste
sûr.
Derrière.
Eric Hobsbawm, l'historien. Heureusement, Adorno a écrit quelques-unes des pages les plus stupides jamais écrites sur le jazz.
Voilà. Bon, ben voilà la réponse.
Bon. Voilà, donc c'est...
Tu veux parler d'Adorno?
Je peux le faire. Mais... Non, bon, enfin, c'est quelqu'un... qui est très connu pour son activité intellectuelle et effectivement qui a une sorte de assez longtemps hein, dans toute sa carrière et donc il a beaucoup écrit sur la musique et il a une sorte de détestation, je pense on peut le dire, du jazz qui incarne selon lui quelque chose de très capitaliste
ouais. Et qui est progressive parce qu'au début de ses premiers écrits enfin j'ai lu des choses sur ses commentaires de films musicaux. Ce qu'il était à Hollywood avec Bertolt Brecht et tout ça. Et au début, il n'est pas aussi virulent que ça.
Okay.
Donc ça... En tout cas, après, il l'a été, ça c'est sûr. Et sur la musique populaire en général, hein, parce que même sur John Baez et tout ça, il a dit des trucs assez...
Ouais, c'est vrai qu'il a écrit sur les années 60 quelques-unes des pages les plus stupides. Non, parce qu'il y a... Il y a un témoignage sur les révoltes étudiantes de la fin des années 60 où Adorno et son copain Horkheimer, là, ils sont effarés, en fait. Ils condamnent totalement. Et on sent qu'ils comprennent pas du tout le truc. C'est assez marrant.
Oui, c'est la culture de masse qu'ils voient avec.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est d'ailleurs, moi, j'avais une rencontre un petit peu houleuse avec une compositrice de musique contemporaine. Qui me disait quand les choses étaient populaires, c'était que c'était on était dans la trahison de l'art, quoi. Donc, je n'osais pas trop lui dire que sa musique était vraiment une sorte de, elle était vraiment pas du tout de la trahison, alors. Mais et donc elle me prenait comme exemple la musique sérielle, etc. Alors que beaucoup de gens qui ont été dans le courant de la musique sérielle, et Kurt Weill, Paul Dessau et Hans Eisler en premier chef, sont devenus des gens qui ont marqué la musique, non pas parce qu'ils étaient dans le sillage de Schoenberg, qui lui-même après est devenu un professeur de musique pour les compositeurs de musique à Hollywood aussi, hein, mais c'est quand ils ont rencontré Brecht et qu'ils ont fait l'opéra de Katsu, Sieben Elefanten pour Paul Dessau, les chansons très très d'Hans Eisler, oui, Die Solidaritätslied, etc. Donc ces musiciens sont restés pour ça. Je crois que si on écoute leur musique sérielle, j'en ai un peu, sur moi c'est très sympathique, mais en fait c'est ça. À côté de Schoenberg ou Berg et tout ça, c'est pas vraiment très intéressant, quoi. Donc, cette espèce de séparation des choses, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de faire, en tout cas dans le livre. Parce que là, bon, on parle des citations, ben, on a écrit entre les citations tous les deux, hein. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire, de prendre ces citations, presque un petit peu comme dans un film de Godard, quoi, en essayant de créer une histoire avec ces bouts de texte.
On va illustrer par un nouveau morceau de musique, s'il te plaît, Hélène. Radio Libertaire, la boisson du Nîmes-Maître de la Fédération Anarchiste, la société dans tous ses états, toujours avec Jean Rochard et Pierre Ten pour le jazz, on sent une citation. Et on vient d'écouter Sidney Bechet, le titre c'est Limehouse Blues.
Oui, alors c'est Sidney Bechet avec Lil Hardin Armstrong, qui était la première épouse de Louis Armstrong, et le batteur Sooty Singleton. Donc c'est un morceau qui est, d'ailleurs on parlait de Charles Delaunay tout à l'heure, c'est lui le producteur de cette séance. C'est assez intéressant, il n'y a pas de basse par exemple, donc ça donne beaucoup d'espace à la batterie qui marque tout le rythme et tout ça. Et puis c'est vrai que bon, on parle à juste titre de l'importance de quelqu'un comme Louis Armstrong, mais on oublie souvent de citer sa première compagne, Lil Hardin Armstrong, qui est une pianiste absolument formidable, comme on vient de le voir là, hein, qui s'est, je crois qu'on la cite à un moment, elle se jette là-dedans sans trop savoir ce qui va se passer dans une séance enfin dans une rencontre de où les musiciens se retrouvent, quoi,
Lorsque je me suis assise au piano, j'ai demandé la musique, mais ils m'ont dit qu'ils n'utilisaient pas de partition. Je leur ai ensuite demandé dans quelle tonalité ils allaient jouer, et ils m'ont dit d'écouter et de me lancer après avoir entendu deux coups du chef. J'ai écouté et je les ai suivis. Lorsque j'ai entendu les deux coups, j'ai frappé autant de touches que possible en même temps, parce que de cette façon, je me suis dit que, quelle que soit la tonalité dans laquelle ils joueraient, j'y serais aussi. Après quelques mesures, j'ai commencé à sentir les changements d'accords et j'étais dans le groove et dans le groupe. Lil Hardin Armstrong, pianiste et chanteuse.
Ben ouais, ouais, ça raconte bien comment les choses se sont faites aussi à un moment, parce que elle avait un certain bagage musical, donc probablement d'avoir un petit peu de notion de lecture, de musique classique et tout, ce qui était très difficile pour les musiciens noirs. Hein. Rappelons-nous que, par exemple, Nina Simone, elle a vécu toute sa vie dans la frustration. Ouais. Elle aurait voulu être concertiste. Elle a pas être noire et femme a vraiment compliqué son existence. Alors évidemment, ça a donné la chanteuse que l'on sait, hein, qui est absolument magnifique. Hein, mais elle a toujours eu cette grande frustration. Ouais.
On reviendra un peu plus loin dans l'émission sur le rôle trop méconnu des femmes dans le jazz. On connaît un peu plus les chanteuses, mais les instrumentistes, et il y en a un grand nombre d'instrumentistes femmes qui ont donné de très très belles, très, très belles choses. Sidney Bechet, il est cité à un moment donné par un célèbre chef d'orchestre suisse, Eric Ansermet.
Ernest
Ansermet. Je ne retrouve pas la citation, j'avais aussi parlé.
C'est au début.
Et voilà, il y a aussi des Francis Poulenc, Ansermet, des Debussy qui ont...
Mais Poulenc, il n'aimait pas trop ça. Hein.
Non, ouais, Poulenc, ouais. C'est assez critique.
Oui, c'est vrai.
Ouais. C'est un peu marrant, d'ailleurs, sa critique qui est acerbe du jazz, où il dit, en fait, c'est du sous Rachmaninov mélangé à du sous machin. Mais c'est pour ça, pour compenser, on a mis celle d'Ernest Ansermet, où il dit, complètement extatique, il y a ce joueur de clarinette ou de soprano, je sais plus.
Mais il jouait de la clarinette à ce moment-là.
Qui est complètement incroyable, c'est Sidney Bechet. Et... voilà, ça donne les deux points de vue de...
Oui, surtout que, bon, Ansermet, alors après, quand on lit tout le texte, évidemment, il y a des choses qui sont aujourd'hui qui ne seraient pas très correctes dans la manière de parler des personnes noires. Mais il est absolument émerveillé quand il entend Sidney Bechet avec... je crois que c'est avec à l'époque la Revue Nègre où il y a Joséphine Baker je crois que c'est dans cet orchestre-là et il a jamais entendu ça, hein. C'est quelque chose qui est complètement et donc comme il est c'est quelqu'un d'entendu qui est dans les gens qui sont dans la musique sérieuse mais beaucoup de musiciens. Ravel a été tout à fait très intéressé par cette histoire de jazz dès qu'il a entendu, ça a influencé quand même sa musique. Stravinsky aussi, de toute façon, bien sûr. Satie, Debussy, dans les prémices du jazz, il y a cette phrase de Satie, le jazz nous raconte sa douleur et on s'en fout. Bon,
très belle citation que vous ne...
Non. Ouais. Il nous en reste pas mal en stock.
Volume 2.
Volume 2. Il y a aussi une exploration de à la fois géographique, politique comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi et historique. On vient de donner quelques trames, mais il y a ce rapport avec les luttes. Et là, c'est vraiment un grand moment du livre. Tout ce qu'il y a autour des luttes pour les droits civiques aux États-Unis au tournant des années 50-60. Avec justement l'apparition, on en a effleuré un petit peu le sujet tout à l'heure, avec l'apparition du free jazz qui est contemporain de cette émergence des luttes pour les droits civiques.
Contemporain, oui, si on prend 59-60 avec les premiers enregistrements, les premiers groupes qui commencent à revendiquer le terme. Pas free jazz d'ailleurs, parce qu'à l'époque on disait new thing, il y avait plusieurs termes, mais ça accompagne complètement ça. Après, moi j'ai pas vécu cette époque, bien sûr, mais je trouve ça un peu délicat parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi évoqué la question de dire, par exemple, quelqu'un comme Ornette Coleman n'était pas du tout, se considérait pas du tout, en fait, dans cette révolution-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'avait pas des idées politiques qui allaient forcément avec, celles qu'on a pu accoler, notamment en France, à ce qu'il faisait. Donc, n'ayant pas vécu ça et ayant entendu beaucoup de gens nuancer ces choses-là, je sais pas comment situer les choses là. Par contre, ce qui est assez fort, c'est à quel point ça fournit une sorte de bande-son, je crois, plein de gens se reconnaissent là-dedans.
Il y a quelque chose qui arrive quand même à un moment. Cette histoire de free jazz, évidemment, si on la considère uniquement sur le plan musical, on peut dire que 10 ans avant le free jazz, Lenny Tristano et Lee Konitz font une séance intégralement improvisée, etc. Mais, tu viens de parler d'Ornette Coleman, qui a fait le disque qui s'appelle free jazz, donc, qui a donné son nom à tout un courant. Qui peut-être pas exactement un disque de free jazz au fond, parce que c'est une réflexion sur la forme en tout cas. Et c'est vrai qu'Ornette a eu des. Je me souviens d'un entretien que j'avais lu de lui il y a très longtemps où il disait le problème avec Coltrane, c'est qu'il est trop politique. Ce qui est assez marrant parce que. Vu d'ici, les gens voyaient Coltrane un peu comme une sphère de mystique et était plus côté Dolphy, Ornette Coleman finalement. Et lui, il critiquait Coltrane en disant il est trop politique. Donc, ces choses sont compliquées, mais aussi c'est vrai que pendant ce courant des années 60. Alors, il n'y a pas que le free jazz, hein, parce que je pense qu'il y a toute une musique qui s'est embarquée là-dedans. La musique soul, et du côté à cause d'Adorno, on a évoqué John Baez tout à l'heure, qui fait aussi partie de ça à un autre endroit. Et si on prend quelqu'un comme Archie Shepp, par exemple, qui était dans une revendication très, très assurée de tout ça, ce qui va d'ailleurs... amené au bout à la fin de la décennie, on voit la musique change. Par exemple, Archie Shepp fait ce disque dédié aux prisonniers d'Attica, hein, qui s'appelle Attica Blues, et il fait 4 disques chez Impulse. D'ailleurs, la maison de disques le suit pas tellement. C'est assez marrant. Ça me fait penser quand Jacques Tolo me disait bon, je fais encore du free jazz parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, mais il y a eu aussi tout cet impact d'une autre musique noire aussi importante, mais qui a sans doute touché les gens à un autre endroit, qui est le rhythm and blues et la soul music. Et évidemment, James Brown, par exemple, qui est encore beaucoup moins politisé qu'Ornette Coleman, si on veut. À un moment, il arrive avec ce titre qui s'appelle « I'm Black and I'm Proud » et tout d'un coup, ça rassemble les gens d'une manière absolument extraordinaire. Donc, et pas mal de musiciens donc étaient dans ce courant de free jazz, etc., comme Archie Shepp, que j'ai cité tout à l'heure. Mais on peut prendre d'un autre côté Miles Davis, qui est moins directement dans cette affaire-là, puis c'est pas du tout quelqu'un qui était dans le free jazz, même s'il a laissé ces musiciens jouaient extrêmement librement. Je pense à son quintet où il disait « Vous faites ce que vous voulez, votre truc de free, moi vous pouvez le faire, mais dès que je joue de la trompette, vous arrêtez. » Donc, mais il est laissé faire ça sur scène aussi. Donc, il y a eu, c'est vrai, un besoin de libération, un besoin de rupture extrêmement fort à un moment. On voit ça, on est dans l'après-guerre, il y a effectivement... la lutte pour les droits civiques, il y a beaucoup de choses. Hein, les rapports entre ces musiciens de jazz quand ils arrivent en Europe, le festival qu'il y a à Alger. À Tanger, c'était les beatniks. Festival panafricain où il y a des gens des Black Panthers qui sont là-bas, qui sont hébergés par le gouvernement algérien, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je pense à l'implication d'un musicien comme François Tusk, avec les Clifford Santon, etc., où il y avait la CIA, la descente de l'avion et tout. Bon, il y a eu quand même beaucoup de choses dont je pense cette musique, elle inquiétait aussi quand même. Elle inquiétait assez fort et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, donc on était déjà peut-être à la fin de quelque chose, mais alors c'est toujours difficile de savoir à quel endroit on est de tout ça, mais je pense par exemple à 1973, en France, les gens qui sont dans les concerts de free jazz sont passionnés par ce qui se passe chez Leap, par exemple. C'est-à-dire on parle de ça tout le temps. Et si on regarde le concert d'Albert Heller à la Fondation Macht, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est-à-dire il fait deux soirs, il y a 1000 personnes à chaque fois, quand même. Hein. C'est quand même très impressionnant. Albert Heller, il est dans une espèce de truc, l'amour intersidéral et tout ça. Enfin, des trucs assez... Et il y a tous les révolutionnaires de France qui sont là en train d'applaudir ça. Bon, c'est assez étonnant quand même toutes ces conjonctions. C'est-à-dire que je pense que la musique, elle représente quelque chose. Enfin, j'allais dire à ce moment-là, ce qui est une bêtise parce que ça continue en fait d'une certaine manière. Peut-être c'est plus discret, c'est moins facile, c'est moins identifiable, mais ça continue quand même. Elle représente quelque chose de très fort qui est au-delà d'un texte écrit, quoi.
On va écouter un morceau de musique, s'il te plaît, Hélène. Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états, aujourd'hui avec Jean Rochard et Pierre Ten pour leur disque, leur livre, le jazz en sort une citation.
On n'a pas encore enregistré.
On vient d'entendre successivement Joe Jones Trio, Sweet Georgia Brown, suivi ensuite d'un titre de Dorothy Ashby, Soul Vibrations. C'est peut-être un triple fardeau, car peu de femmes sont reconnues comme joueuses de jazz. Il y a aussi le lien avec les femmes noires. Le public que j'essayais d'atteindre n'était pas intéressé par la harpe, point final, classique ou autre, et il n'était certainement pas intéressé par le fait de voir une femme noire jouer de la harpe. C'est une citation de Dorothy Ashby, harpiste. Alors, on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, les femmes et le jazz, Dorothy Ashby, donc un exemple de ces musiciennes qui sont d'un très très haut niveau qu'on ne reconnaît pas ou qui sont peut-être pas reconnues comme elles devraient l'être.
Ouais, effectivement, nous on en a parlé assez rapidement de ça, sans vouloir non plus arriver dans une logique paritaire totale, parce que malgré tout on hérite d'une histoire du jazz qui est très masculine et comme tu viens de le dire, qui a invisibiliser beaucoup les femmes, notamment les instrumentistes et les compositrices. Mais cela dit, on s'est dit, on va essayer de... On va consacrer un chapitre à cette question, aux femmes dans le jazz et aux féministes, mais on va essayer de montrer que depuis le début, elles sont là, sans forcément l'analyser, mais juste on a parlé de Lillardine Armstrong, qui, on met sa citation, on en parle, il y a Ada Bricktop Smith aussi au début, qui avait un club à Paris dans les années 20. Donc il y avait aussi ce désir de les faire exister dans un peu les différentes histoires dont on parle de façon simple, parce qu'elles étaient là depuis le début. Et sur la question que tu soulèves, on a effectivement fait un chapitre là-dessus où c'était pas évident, mais on essayait de trouver une manière de parler de la masculinité du jazz qui peut être un peu oppressante.
Un peu pénible. Mmh. Et on a aussi abordé la question de l'homosexualité, puisque c'est quand même... on est dans un domaine musical où cette question d'homosexualité a été vraiment extrêmement tabou quand même, plus encore que dans... bien plus que dans le rock ou dans la musique classique.
Je te coupe, mais c'est quasiment, si tu regardes un peu l'histoire du jazz, c'est comme s'il n'y avait pas d'homosexualité. Dans la façon dont elle se raconte, il y a Gary Burton qui est un des premiers à s'ouvrir de son homosexualité publiquement.
Oui, oui.
Billy Strayhorn aussi.
Billy Strayhorn le fait avant lui.
Oui, oui, non, oui.
Puisque Billy Strayhorn d'ailleurs le fait à une époque où c'est très dangereux pour lui en tant que noir homosexuel, et il est... il est avec l'orchestre d'Ellington, où il y a apparemment une grande tolérance à ce moment-là, mais c'est très très compliqué, parce qu'en plus c'est hors la loi à ce moment-là. Et il y a aussi les femmes. Hein. Bessie Smith parle de son homosexualité aussi. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qui a été assez assez présent et étrangement. Très rejeté par, y compris des amateurs de jazz qui étaient dans la grande idée révolutionnaire de cette musique, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Cecil Taylor, qui était homosexuel, qui l'a dit souvent, c'est quelque chose dont on parlait absolument pas, quoi. Et je me souviens d'un moment que j'avais trouvé assez choquant, quand le critique de Libération, Serge Loupien, avait fait référence à la bisexualité de Miles Davis dans un article. Il y a une tribune de musiciens français disant qu'il manquait de respect à Miles Davis. Donc j'avais trouvé ça vraiment tout à fait particulier, quoi. Oui. Comme c'est vraiment quelque chose encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que bon, évidemment, à la surface, les gens sont pour le mariage pour tous, tatati tatata, mais en fait, au fond, cette chose-là, elle existe encore. On est dans une musique où c'est pas très... les gens sont un peu dérangés par ça. Si par exemple l'évocation de, j'ai parlé de Stéphane Grappelli tout à l'heure, il y a des, quand on parle de l'homosexualité de Stéphane Grappelli, qui est notoire quand même, certains critiques vont dire non mais attention, de quoi vous parlez, on peut pas dire ça comme ça, etc. C'est très très curieux.
Ouais, c'est préjugé.
Ouais, ouais, c'est assez fort. Hein.
Bah, lui-même dans la façon de parler du jazz, il y a tout un truc de vocabulaire, d'expressions qui reviennent encore parfois, où t'as des valorisations de la virilité qui arrivent très vite et qui sont, bah, bien sûr, très pénibles, mais. Disons que c'est une musique qui peut faire des progrès, je crois.
Oui, oui, qui est là pour en faire, en plus. Mmh. Et quand, c'est toujours ces choses... c'est-à-dire, c'est une musique qui représentait une grande libération d'un côté, mais pas intégralement quand même.
C'est justement un des aspects que je trouve très intéressant dans la façon que vous avez eu d'aborder le jazz à travers les citations. C'est justement de donner des éclairages sur ces aspects que d'habitude on laisse un petit peu de côté.
Oui, sans appuyer, ouais. Je crois. Enfin, c'est assez... Mmh, assez... Mmh. Je pense que Pierre, comme moi, on aime bien la musique aussi parce qu'elle se rapporte au monde, tout simplement. Donc, c'est de ça dont on a parlé. Ça, c'est pas un livre de spécialiste du jazz. Mmh. Mais par contre, je crois que c'est un livre de gens pour qui la musique a un rapport très fort avec le monde.
Mmh. Et puis, pour rejoindre ce que tu dis, ce qui était étonnant pour moi très rapidement, c'est plus je fréquentais ce genre de. Enfin, les gens qui parlaient de jazz, qui écrivaient dessus. J'étais frappé de pas retrouver certaines choses que tu vois très vite arriver ailleurs. Par exemple, si on parle des années 20 ou 30, dès que tu regardes dans la littérature, par exemple, new-yorkaise, enfin là, je pense à ça, mais Djuna Barnes, qui est une écrivaine, qui est une des premières à parler quand même de lesbianisme de façon aussi ouverte, à écrire dessus, à revendiquer des choses là-dessus, et à fréquenter le Cotton Club. Enfin, déjà, c'est des choses qui sont qui pour elle avaient une sorte d'évidence, même si elle était plutôt en tant que cliente et qu'elle était blanche. Je pense aussi toujours dans les écrivains à Claude McKay qui parle d'univers qui sont éminemment liés au jazz, mais qui sont voilà, c'est Marseille, c'est des itinérants, c'est des vagabonds. Et en fait, finalement, dans ce que moi, la fréquentation que j'ai eue avec avec la culture vraiment de jazz, quoi. On parlait moins de ça. Et c'était assez bizarre, quoi, ce fossé-là entre. Enfin, bon, après, j'ai découvert des vieux jazz magazines où ils en parlaient plus. Mais moi, dans ce que j'ai vécu dans les années 2000-2010, c'était. C'est comme si on parlait pas de toute une part qui était juste derrière le rideau, quoi. Et c'est très bizarre. Donc, bon, il y avait un peu ce truc-là. On a un chapitre qui s'appelle Le rideau déchiré.
Ouais.
Je trouvais ça intéressant d'essayer d'ouvrir un peu des ponts, quoi.
Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu viens d'évoquer finalement le rapport par la presse, hein, puisque on a bien pas lu la même. Enfin, maintenant, on lit ou on délit la même, je ne sais pas. Bon. Mais c'est vrai que la presse de jazz que j'ai lue, d'ailleurs, c'était la même chose pour la presse qui parlait du rock aussi. Hein, c'est-à-dire le côté politique, il était très très fort. Hein. Bon, quand on avait Jazz Magazine d'un côté qui disait le jazz est politique, et de l'autre côté il y avait Jazz Out qui disait le jazz est pas politique. Bon. À un certain moment, puisqu'avant, dans les années 60, il y a eu un petit passage... passage Mao de Jazzot, où Charles Delaunay a mis le haut là à un moment. Mais donc pour moi, tout ça semblait comme une évidence, quoi. Ça semblait comme une évidence de s'intéresser à ce qui se passait chez Lip, par exemple, d'aller écouter Cécile Taylor, mais ça pouvait être aussi Don Byas, et d'avoir été... moi je suis pas tombé dans le jazz quand j'étais petit, hein. J'ai écouté d'autres musiques avant. Enfin, mon frère aîné, il écoutait Otis Redding, par exemple, Ray Charles, parce que c'était quelque chose qui était assez en vogue à ce moment-là, et il écoutait aussi Johnny Hallyday. Bon,
c'était aussi en vogue à ce moment-là.
Okay, oui, ça a duré. Et Donc il y avait quand même toute cette musique noire qui nous marquait, et puis tout ce qui se faisait, qui venait d'Angleterre, les Kings, etc. Bon. Et puis Jimi Hendrix, quoi. Enfin, ce qui me concerne, c'est le grand choc à un moment. C'est Jimi Hendrix, et puis les autres grands chocs, après c'est Don Cherry, et c'est Michel Portal à Château-Vallon en 1972.
On va remettre une pause musicale. Thank you. Radio Libertaire, la voix sonore de la Fédération d'Anarchistes, toujours la société dans tous ses états avec Jean Rochard et Pierre Ten pour le jazz, on sent une citation. On vient d'écouter François Tusque après La Marée Noire. Ce titre s'appelait La Rencontre, hein, c'est ça?
Oui. Alors, je trouve que François Tusque, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein, François Tusque, c'est le premier musicien qui a fait du free jazz en France. Donc, qui était dans un rapport politique extrêmement fort à cette musique-là. C'est-à-dire qu'il cherchait quelque chose de très politique dans la musique et qu'il avait trouvé, évidemment, quand il a rencontré des gens comme Don Cherry, par exemple, hein, qui a eu une grande influence sur tous ces musiciens en France, je pense, Jacques Tolo, Bernard Vité, etc. Et François Tusque, à un certain moment, il a mis de côté le free jazz, quoi, aussi, parce que c'était de la musique américaine, on a beau mettre de côté les choses, elles restent à l'intérieur. Et il est allé vers la musique bretonne au moment de. On est au moment de la Moko Cadiz, hein, c'est-à-dire c'est la Marée Noire.
77, c'est ça.
Ouais. Et il fait ce disque qui s'appelle Après la Marée Noire, donc qui est un commentaire direct sur quelque chose qui se passe, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, parce que on a cité en micro le livre de Philippe Carle et Jean-Louis Comolli, Free Jazz Black Power, qui est évidemment un livre qui a marqué beaucoup de gens d'une certaine génération, quoi, qui était déjà un état de la décennie précédente et des possibilités pour celles qui allaient venir. Ça s'est passé peut-être un peu autrement, mais c'est un livre extrêmement passionnant et à relire aujourd'hui encore. Mais je pense que Pierre, par exemple, toi, tu le lis certainement autrement de la manière dont moi je l'ai lu quand. J'allais dire quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, que les lectures changent, quoi.
Oui, mais le, comment on perçoit ce livre aujourd'hui?
Comment moi je le perçois aujourd'hui? C'est à la fois. C'est la difficulté à laquelle je me confronte souvent. Et parfois j'ai l'impression que des gens de ma génération de trentenaires sont confrontés aussi, c'est-à-dire se confronter à un vestige. Magnifique et encore vivant d'un passé qui est passionnant, mais comment on fait pour qu'il soit pas écrasant non plus? Comment on fait pour partir de là alors que le contexte est si différent? Je suis souvent confronté, ça me passionne tout ça, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai relu plusieurs fois et dans lequel je pense qu'on peut le lire aussi d'ailleurs sans avoir d'intérêt particulier pour le free jazz, parce que c'est aussi une réflexion puissante sur le plan politique, même sur la vie, quoi. Enfin, c'est un livre très marquant, je trouve, au-delà des questions musicales pour lesquelles il est particulièrement marquant. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est délicat de reprendre les choses aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose de complexe à s'emparer de quelque chose pour le rendre agissant en 2025, et de trouver en 2025 ce qu'il y a à faire à partir de ces héritages-là. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais
heureusement non, sinon ça serait catastrophique.
Mais c'est,
non, c'est super.
Non, mais c'est vrai que oui, là, on a beaucoup échangé, et c'était. Enfin, moi, ça m'a passionné aussi, ces échanges générationnels, de voir comment les perceptions que Jean a de certaines choses, alors que bon, moi, je vais méconnaître aussi totalement, parce que j'y étais pas, ou je vais avoir une compréhension un peu historique, en fait, c'est-à-dire, j'étais pas témoin de ça, j'ai pas été acteur de tout ça.
Mais moi, des fois, je suis pas à des endroits où t'es aujourd'hui.
Oui, voilà,
aussi,
c'est ça.
Et tu m'en parles, et c'est très instructif aussi.
Oui, donc c'est. Ouais.
On a d'autres aspects là que vous abordez dans votre livre, c'est le rapport qui est très ancien et très étroit entre le jazz et le cinéma.
Oui.
Il y a vraiment une. Depuis peut-être. Le chanteur de jazz, hein, ce, considéré comme le premier film parlant.
Ouais. On a une citation même avant, puisque Stéphane Grappelli dit « Moi, je me confronte à la musique dans les cinémas où il parle des grands boulevards. » Parce qu'il y avait des orchestres qui jouaient pendant les films muets. Donc, moi, je trouvais ça pas mal de faire apparaître ça et de le faire apparaître en France, parce qu'on en parle souvent pour Art Tatum. Et pas mal de pianistes, on raconte souvent qu'ils ont commencé là, dans les cinémas, aux États-Unis. Et je trouvais ça bien qu'on raconte aussi Grappelli qui dit « J'arrive à Paris » et en fait c'est dans le cinéma que je me confronte à ces musiques-là. Je trouvais ça aussi intéressant avant même le chanteur de jazz.
Oui, bon, grosso modo, on peut dire que le jazz et le cinéma, c'est des contemporains aussi. Hein, c'est des choses qui arrivent à peu près en même temps. On ne va pas pinailler sur la date précise du début de chacun. Mais le cinéma, il a toujours été, comme Pierre vient de le dire, il a toujours été musical au fond, parce qu'il n'y a jamais eu de film silencieux, au sens où personne n'est jamais allé voir un film dans le grand silence, ça n'a jamais existé. Il y avait toujours des gens qui jouaient. Et parfois même, il y a eu des tentatives de synchronisation d'enregistrement au cinéma, mais c'était trop compliqué, donc on a abandonné, parce qu'en fait, l'idée de faire du cinéma parlant, elle est arrivée très vite, mais c'était trop trop compliqué techniquement, on a laissé tomber. Et d'ailleurs, on a vu aussi qu'au moment où on est arrivé dans le cinéma parlant, on est arrivé à un autre moment où on était à la fin d'une expérience aussi. C'est-à-dire que le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma muet, c'est un cinéma qui est tout le temps expérimental. Si on regarde Buster Keaton ou Laurel et Hardy, etc., ils inventent des trucs tout le temps, à tous les plans. Tout d'un coup, il y a des idées absolument extraordinaires. Et après, on arrive dans le cinéma parlant. Alors, comme on arrive dans le cinéma parlant, on a la parole, évidemment, et des audaces qu'on a eues dans le muet, par exemple, sur la nudité, des choses comme ça. Tout ça va s'arrêter, en fait, hein, avec le Kodaïs, et ça va durer assez longtemps. Bon, plus ou moins, je pense, si Bertrand Tavernier était là, il contredirait ce que je dis, mais donc le jazz, il est forcément partie prenante de cette histoire, puisque va y avoir beaucoup de musique de jazz quand même. Enfin, il y a beaucoup de musique à Hollywood qui vient. Donc, on a parlé d'Arnold Schoenberg ou des gens qui étaient des compositeurs. Eric Korngol, par exemple, des compositeurs européens qui avaient fui le nazisme, qui sont arrivés aux États-Unis. Donc, le grand truc à faire, c'était de la musique de film. Bon, Schoenberg, ça lui disait rien, donc il préférait être prof des voilà. Mais il y a eu aussi le jazz. Hein. Alors, la question d'avoir de la musique faite par des Noirs était compliquée aussi. Il y a des gens comme Henry Mancini, par exemple, qui ont beaucoup poussé au fait que quelqu'un comme Quincy Jones puisse faire des musiques de films. Et c'est Sidney Lumet qui lui donne, je crois, Quincy Jones ses premières musiques de films. Et donc, on va voir aussi Ellington avec Otto Preminger, etc. Et beaucoup. Et puis, en Europe, hein, c'est-à-dire qu'on en parle dans le livre, La nuit d'Antonioni, la musique, c'est Giorgio Gaslini, c'est-à-dire que c'est de la musique de jazz dans cette espèce de nouveau cinéma italien, où il y a des séquences d'ailleurs de musique assez improvisée. Donc, on a une sorte de début du free jazz aussi dans le cinéma lui-même.
Louis Malle, l'ascenseur pour l'échafaud.
Louis Malle, évidemment, oui, bien sûr, avec cette référence. Mais après, Skolimowski, avec le départ. Irona, Gatto Barbieri, Don Cherry, etc.
Et alors, vous parlez d'un film que moi j'avais vu au Ciné-Club du lycée, et donc ça fait quelques années quand même, La Coupe à 10 francs. Je ne savais pas que c'était
magnifique.
Un film incroyable.
Oui, Antoine Duhamel, ouais. Anthony Braxton et François Michali, voilà, qui improvisent dans le film. Ouais. C'est-à-dire, on est au début des années 70 en France. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus cette liberté-là. Hein. Ouais. Je pense que la méfiance est trop grande pour qu'on puisse se risquer à des choses comme ça. Certains le font un petit peu, mais pas sur les sur des productions relativement en vue. On a encore des choses intéressantes au niveau de la musique, bien sûr, mais il y a le cinéma et la musique, c'est chien et chat un peu. C'est je t'aime moi non plus quand même.
Ouais. Où est-ce qu'on écoute du jazz aujourd'hui?
Radio Libertaire.
Oui. Bravo. C'était pas du tout téléphoné.
Ah bon, mais pourtant j'ai lu mon texte.
Il y a aussi beaucoup de festivals de jazz quand même.
Ouais. Beaucoup, entre parenthèses, trop de festivals de jazz, oui.
Beaucoup. Trop, ouais.
Oui, je pense.
Le trop, le jazz, c'est pas le cas de tous les festivals, bien sûr, mais c'est souvent aussi, on va mettre festival de jazz quand on sait pas trop ce qu'est le festival de musique on veut faire. Hein. Enfin, c'est là où t'as le. Sur un festival de reggae, tu vas avoir une programmation qui est indubitablement du reggae. Classique, pareil. Le jazz, la variété des programmations est assez incroyable. Donc c'est.
Voilà. Oui, la variété des programmations est assez incroyable et le mot variété est quand même assez intéressant puisque par exemple si on regarde le festival de jazz de l'île de Ré, moi je trouve ça très rigolo mais ça énerve beaucoup de nos camarades. La vedette cette année c'est Sheila quoi, qui doit faire son millième adieu, ouais. Oui. C'est-à-dire je pense qu'on arrive à un moment, mais moi je trouve ça très bien quoi, puisque finalement ça nous montre. On voit bien que la presse de jazz, etc., aujourd'hui, elle n'ose plus. Hein, c'est-à-dire que Miles Davis en couverture, tous les deux numéros, etc., comme si le temps s'était arrêté à un moment, et on n'ose plus rien mettre. Alors finalement, pourquoi pas mettre Sheila à un moment ? Puis un autre festival de jazz dans le sud où il y a aussi Michel Polnareff. Avant, il y avait Michel Jonas. Enfin, c'est bon. Donc c'est à peu près n'importe quoi. Oui, quand j'ai dit trop de festivals de jazz, c'est pas très gentil, mais c'est à mon avis quand même assez vrai. C'est-à-dire, je pense que c'est on se porte mieux si on a plus de lieux où il y a une régularité de musique et un peu moins de festivals. C'est-à-dire que maintenant, chaque conseil général a son petit festival de jazz, comme il a aussi sa fête de je sais pas quoi. Donc on peut avoir le jazz et le jambon et tout. Enfin, ce qui est intéressant, c'est quand ces festivals, tout ça, ils portent quelque chose. Là, on est dans la. Aide-moi, Pierre. On est dans de la consommation rapide, un peu de choses. Bon, je vais écouter mon petit concert de jazz, mais au fond, ça change rien, quoi. Ça change rien à ma vie. Ça change même rien à ma discothèque, d'ailleurs. Ça change ou à ma playlist et tout ça. Mais bon, on est allé écouter du jazz. C'était bien sympa.
Ouais, et puis là, on arrive. Aujourd'hui, c'est pas propre au jazz, mais il y a une sorte d'assaut énorme de tout un système économique, des subventions. Il y a concrètement beaucoup d'artistes qui sont en train de se poser la question de est-ce qu'on va pouvoir, pas dans 3 ans, mais dans 3 mois, pouvoir continuer à vivre comme on le fait de notre musique. C'est assez complexe, mais il y a des gens qui sont en train de faire des formations, des études, des CAP, parce qu'ils anticipent, je pense avec beaucoup de lucidité, la disparition d'une profession. Et effectivement, on a une presse de jazz à laquelle je participe, et des festivals de jazz qui nous disent tout va bien. Et on nous parle effectivement de Miles Davis en couverture, et puis du concert historique qu'on va s'apprêter à entendre pour la 40e fois. Et ça, c'est aujourd'hui très pesant. Je trouve, c'est-à-dire il y a un désir de ne pas comprendre, un désir de ne pas dire ce qui se passe pour faire perdurer une image du jazz. Bon, nous on a essayé de proposer, je crois, autre chose de ce point de vue-là, mais aujourd'hui c'est très 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 pesant. Enfin, quand tu dis où écouter du jazz, malheureusement il y a beaucoup de fausses pistes, il y a beaucoup de panneaux qui indiquent des directions assez assez bouchées.
Ouais.
Il y en a plein d'autres très bien.
Oui, bien sûr.
Juste un petit mot sur les supports. Tu es producteur, tu t'occupes d'un label. On sait que aujourd'hui la musique est dématérialisée. Enfin, je veux dire, l'écoute de la musique est.
Oui, même les gens, ils sont dématérialisés. Donc, je sais pas. Oui. Ouais. Mais là, c'est un gros débat là. On peut revenir peut-être pour parler de ça.
Oui, non, avec grand plaisir.
Je voudrais pas m'inviter pas. Mais c'est très compliqué. En tout cas, c'est très inquiétant quand même. Il y a beaucoup de choses, mais. Le disque qu'on écoutait de François Tusque tout à l'heure, il était réédité par une boutique qui n'est pas loin d'ici, qui s'appelle Le Souffle Continu, qui est un super disquaire. Et j'invite tout le monde à aller parce que c'est la vie quand on est là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit sur Internet où on peut vous recommander des disques comme un disquaire peut le faire.
On va écouter de la musique sur support matériel. Radio Libertaire, la voix sans limite, la fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Nous sommes encore avec Jean Rochard et Pierre Ten, le jazz en 101 citations. 101 citations aux éditions I. L'émission est, voilà, c'est quasiment terminée. Mais vous reviendrez.
Vous reviendrez.
Merci encore Jean, merci encore Pierre.
Merci beaucoup Mohamed.
Merci Hélène, bien sûr. On vient d'écouter Evrisser et le Red Desert Orchestra, un album qui s'appelle Orythmia. Et le titre du morceau, c'était Sa, qui veut dire serpent en bambara, c'est ça?
Oui, c'est en tout cas le sous-titre qu'il y a. Je ne parle pas bambara.
Moi non plus.
Mais c'est un exemple de choses qui se font aujourd'hui, qui sont très très réjouissantes et très excitantes. C'est l'orchestre d'Evrisser avec des musiciennes africaines, maliennes.
Mmh, il me semble.
On va laisser la place à nos amis du Monde Merveilleux du Travail. On se retrouve le mois prochain. Ça sera en juillet, le 21 juillet. À très bientôt. On peut remettre notre générique, Hélène.
Ah, je l'ai retiré. Bon, moi, je crois que je...
Eh bien, écoutez, on n'aura pas de générique. On va demander à nos amis du Monde Merveilleux. Ou alors, tu peux relancer un autre morceau, le temps de faire la jonction avec nos amis du Monde Merveilleux du Travail, de façon à meubler ce, comme on dit, blanc à l'antenne.
Musique de...
J'espère encore longtemps, en attendant que les autres aient gagné et qu'ils aient fait tout foirer. Sois technocrate en redingote étriquée, tu finiras bien par m'avoir tout ficelé. Mais jusqu'à temps que t'aies fait sauter la planète, moi je ferai de la musique avec mes potes. Si bon baignant, trois beaux canards, si bon baignant, trois beaux canards, si bon baignant, il y en a deux noirs, il y en a un blanc. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie. Le fils du roi s'en va chassant, le fils du roi s'en va chassant avec son beau fusil d'argent. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie. Avec son beau fusil d'argent, il a tué mon canard blanc. Il a tué mon canard blanc. Il a tué mon canard blanc. Au fils du roi, tu es méchant. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, mamie. Au fils du roi, tu es méchant.